La hussarde.
Bonjour Caroline, ça va ?
Salut Thomas, bah oui, très bien.
Bon, tu commences à t'intéresser un peu plus à la politique ? Tu t'y fais ?
Non, bah je m'y mets doucement, ça va, je m'y fais, j'avance, bon. Mais je suis pas encore intoxiquée comme toi.
On va faire de toi une vraie critique politique aujourd'hui, le cas Hamon.
Oui, j'y suis. Et alors, j'ai déjà écouté le début, là, ton chapeau, et bonjour l'ambiance, quoi. Hein. On dirait carrément les Médicis, tout le monde se déteste, tout le monde rêve de supprimer les autres.
Ouais, il faut que tu t'y fasses, hein, c'est un peu le monde des faux culs. Moi, là, j'ai plutôt comparé ça à un jeu de quilles.
Ah oui, et j'aime bien surtout les dernières parties sur le bowling.
Et dans ce grand bowling électoral, le tout est de savoir qui est qui et qui est boule. Les sortants, les stars installées de la politique sont le plus souvent des quilles. Hollande, Juppé, Sarkozy, Duflot, Valls, tous dégagés. Mais attention, on peut passer du statut de boule à celui de quille. François Fillon, renversant les favoris de son camp, était une boule. Fin janvier 2017, empêtré dans les affaires, eh bien il devient une quille. Hamon est une boule qui a fait un strike lors de la primaire de son camp. Il deviendra une quille représentant l'ancien monde partidaire, dégagé brutalement par les boules Macron et Mélenchon.
Voilà, on commence par l'archive 1 sur Hamon. C'est le soir de sa victoire à la primaire du PS. C'est une victoire à la Pyrrhus. Hein. Et puis on met l'interview d'Hanotin juste après ma question.
Hanotin. Alors là, tu vois, je sais absolument pas qui c'est Hanotin et je crois que je suis pas la seule parce qu'Hanotin, j'ai entendu parler.
Il est pas très connu. Il est quand même député de Seine-Saint-Denis, mais c'était le directeur de campagne de Hamon. Et directeur de campagne, c'est très important. C'est lui qui est au centre de tout. Il organise tout. Il connaît plein de choses. Et on l'a, donc c'est pas mal.
Ok,
pour Benoît Hamon, 58,65%.
On a gagné ! C'est parti !
Tellement heureux que pour la première fois de la campagne, ils applaudissent Manuel Valls.
Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique.
L'amour des siens, Benoît Hamon va en avoir besoin. Coup de fil dans la soirée à François Hollande, rencontre ce lundi avec Bernard Cazeneuve, puis demain mardi avec les députés. La bataille du rassemblement a commencé.
Benoît Hamon parle tout de suite de rassemblement, c'était logique. Mais d'abord, Mathieu Hanotin, vous étiez son directeur de campagne. Racontez-nous la surprise Hamon à la primaire. Pourquoi c'est lui qui a gagné? Qu'a-t-il représenté pour la gauche à ce moment-là?
Si je prends du champ et que je m'éloigne un petit peu, j'accepte les deux premières années du quinquennat où il y a quand même l'effet d'arrivée de la gauche au pouvoir. Il y a eu un premier budget qui a été plutôt bon de mon point de vue. Mais
les années héros.
Voilà, si on accepte les années héros et que donc on regarde depuis la première défaite électorale du quinquennat, mars 2014, les municipales et son corollaire, l'arrivée de Manuel Valls au pouvoir. Finalement, maintenant on a un peu de recul sur ces quatre années-là. Trois années de pouvoir, la campagne et un an après. La seule éclaircie pour la gauche, durant ces quatre années-là, le seul, je dirais, espoir qui s'est créé, le seul trou de souris électoral ou sondagier, ça a été janvier 2017 et février 2017. Et c'est Benoît Hamon qui l'a apporté. Benoît Hamon, il a su créer cet espoir. Cet espoir que la gauche pouvait servir à quelque chose, cet espoir que la gauche pouvait se renouveler en son propre sein, sans justement faire appel au dégagisme le plus absolu. Et finalement, on parlera après, mais notre responsabilité dans cette affaire, c'est de ne pas avoir su cristalliser cet espoir.
On va y revenir, effectivement.
Moi, je suis convaincu
mais
que...
Mais à ce moment-là, c'était une victoire surprise. C'était quoi le moteur de cette victoire ?
C'était une victoire surprise par rapport au sondage, à l'évidence, parce que trois jours avant le premier tour, Manuel Valls avait encore plus de 10 points d'avance dans tous les sondages qui étaient donnés. Dans le dernier sondage qui sort le vendredi avant le premier tour, il a plus de 10 points d'avance.
Ça faisait quelques jours qu'on voyait quand même la montée.
Mais là où c'était pas une surprise pour beaucoup de gens et pour nous qui étions sur le terrain, c'est qu'on sentait une envie qui, jour après jour, montait, une envie de politique, au bon sens du terme, une envie d'idées neuves, une envie de s'interroger et de ne pas être dans cette acceptation de l'ordre établi, qu'il n'y a qu'une seule politique, qu'il faut faire uniquement de cette manière-là.
Mais est-ce que vous aviez conscience au soir de la victoire que le million, c'est assez peu finalement, au regard des 4 millions d'électeurs de la primaire de droite, que le million d'électeurs de la primaire PS était finalement assez sociologiquement typé, hein, qu'il ne désignait pas forcément le mieux armé pour s'offrir à l'ensemble du corps électoral?
Moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que d'abord il n'y avait pas eu 1 million, il y a eu 2 millions pour commencer, qui sont venus voter. Et on l'a vu, je pense qu'il y a eu une très belle campagne des primaires, il y a eu des vrais choix. Et c'est ça qui est important.
Oui,
et pourquoi
débats,
est-ce que la primaire a marché? Parce qu'il y avait des vrais choix qui étaient proposés. Voilà. Et je vous le dis, ça a produit de l'effet dans toute la société. Parce que, reviens sur ça, oui. Tous les candidats socialistes, avant la primaire, Benoît Hamon, Montebourg, Hollande, Valls, entre 6 et 8%. Tous. Au sortir de la primaire, Benoît Hamon, il sort, le premier sondage du dimanche soir, il est à 18%.
On va y venir. Il y a un début de dynamique.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cet espoir, c'est la primaire qu'il crée. C'est parce qu'il y a le débat, c'est parce qu'il y a cette dimension de choix, cette dimension d'engagement. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Mais qu'est-ce que vous aviez en tête le soir de cette victoire? Est-ce que c'était gagner la présidentielle ou préempter la suite, l'opposition, la gauche à refonder?
Honnêtement, oui. je pense que si on analyse les choses de manière lucide, la gauche, c'est une situation impossible, extrêmement compliquée pour elle parce qu'elle sortait du pouvoir et que on a été confronté à un problème. Justement, on a gagné la primaire en amenant des idées neuves, mais des idées qui effectivement on n'avait pas eu plusieurs mois, plusieurs années pour infuser. Pour convaincre très largement au-delà de cercles militants et puis même de cercles plus conscientisés ceux qui sont venus participer à la primaire.
Mais entre vous, quand vous en discutiez avec Benoît Hamon, vous parliez de la suite quand on prochain, est dans, prochaine tête de
quand
de
on est dans une bataille, oui. Surtout quand on est un outsider, on n'a qu'un seul objectif, c'est la première bataille. Et les batailles viennent les unes après les autres.
Et c'est vrai que tout était incertain.
Ouais. La meilleure manière de ne pas gagner la première bataille, c'est d'anticiper trop sur la seconde. Alors, donc ce qui est vrai, c'est que quand on a ce sondage le soir du deuxième tour, qui nous donne à 18%, on change complètement de dynamique et de perspective.
Justement, rappelons que Benoît Hamon, au lendemain de sa victoire, vous l'avez dit vous-même, était autour de 16, 17, même 18% dans certains sondages, et que Jean-Luc Mélenchon était 8, 9, 10%. Hein, le rapport de force, on l'a oublié, mais c'était celui-là. Quelle est votre stratégie de rassemblement à ce moment-là?
C'est ce que je vous disais, c'est que avec ce sondage qui sort à 18% le dimanche soir, et puis une gamme de sondages qui sont dans le même ordre dans les jours qui suivent, on pense honnêtement que notre responsabilité change. C'est-à-dire que si on était sorti amélioré, mais à 10, 11, 12, on n'était pas dans la même dynamique, dans la même responsabilité. Là, on a à la fois des sondages qui montrent que quelque chose s'est passé, de manière très nette grâce à la primaire.
Et donc vous sentez le poids de la responsabilité.
Et on a une validation populaire quand même avec 2 millions de personnes qui sont déplacées, qui donne justement cette responsabilité à Benoît Hamon d'essayer de trouver une solution pour gagner. Et c'est ça que Benoît a essayé de faire, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est de trouver la solution, l'équation impossible.
Donc vous tournez vers tout le monde, mais à part Yannick Jadot, les autres disent qu'ils sont délaissés par le candidat socialiste.
Ah, et puis là, attention, là on enchaîne sur Sapin, l'interview de Sapin.
Le même Sapin, Sapin le malin, le petit chauve sympa à lunettes. Bah, il est déjà intervenu dans le Macron, tu sais.
Sapin. En fait, c'est la même interview, mais c'est la suite. Il était très proche de Hollande. Il est donc spectateur averti du jeu de quilles, c'est parfait.
Et puis, il a toujours un bon commentaire à faire, j'imagine. Hein, surtout depuis que tout a explosé.
Bah oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est les bons clients, ça. Tu vois, ceux qui sont fait un peu dégager, qui ont un peu les boules. C'est vraiment un bon client. Donc, on l'a une deuxième fois.
Ok.
Ce que j'ai très très mal vécu, c'est la campagne. Non pas sa désignation. Je n'ai pas voté pour lui. Mais à partir du moment, je l'ai dit d'ailleurs publiquement, qu'il était le candidat de mon parti, c'était mon candidat. Et c'est celui que je soutenais. Mais j'ai immédiatement, auprès de lui, passé des messages sur le thème « Maintenant que tu as été désigné, tu dois rassembler ». Et donc, les débuts de sa campagne, j'ai dit avec beaucoup de sincérité mon soutien. Après, je me suis tué.
Mathieu Hanotin, alors Benoît Hamon a-t-il été ingrat, arrogant, négligent avec l'aile modérée des socialistes?
Je vais vous dire, je prendrai le dernier propos de Michel Sapin. Si seulement il s'était tu dans cette campagne, ma foi, peut-être que les choses se seraient mieux passées. Si seulement beaucoup d'autres s'étaient tu, peut-être que ça se serait mieux passé et différemment. Parce que ce n'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé. C'était la litanie jour après jour des gens qui... Comme Michel Sapin, par exemple, à 3 semaines du vote, je crois, nous déclarer.
Mais là, il parle juste.
Je suis loyal, mais je suis pas du tout d'accord. Bon, bah, effectivement, si c'est pour dire ça, mieux vaut se taire.
Juste après la victoire de fin janvier.
Mais alors, complètement faux, parce que tous les signaux sont envoyés de rassemblement. Ça commence au bout d'une semaine, et ça commence même dès le lundi, lorsqu'il y a un rendez-vous entre eux, Bernard Cazeneuve et Benoît Hamon.
Et vous dites que c'est eux qui ne veulent pas. Vous sentez qu'il n'y a pas de désir.
Le premier coup de téléphone de Benoît Hamon, après sa victoire, le premier, et je le sais, j'étais à côté de lui, et donc, c'est pour François Hollande. Le deuxième, c'est pour Bernard Cazeneuve, avec comme objectif de tout de suite rassembler les socialistes dès la première semaine. Donc qui est l'objectif qui est un rendez-vous à Matignon, un rendez-vous à l'Élysée dès la première semaine, avant même qu'ils soient investis, parce que la convention d'investiture était le dimanche d'après. Et que finalement, cet épisode de rassemblement des socialistes se finisse par la convention d'investiture le dimanche suivant. Qu'est-ce qu'on a eu au final? On a eu le lundi le rendez-vous avec Bernard Cazeneuve. Pour ceux que ça intéresse, il y a des images d'archives, je vous les invite à les revoir, où on a un Bernard Cazeneuve qui prend acte du résultat. J'allais dire, encore heureux. Il y a quand même des millions
de fonds. C'est un peu neutre.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que quand il n'y a pas les mots soutien, quand il n'y a pas les mots félicitations, enfin voilà, mais en disant les Français, le peuple de gauche s'est choisi un candidat, j'ai plus les termes exacts en tête, mais enfin, c'était le moins qu'on puisse dire, c'était neutre. On pourrait même dire que c'était presque un peu froid. Voilà. Bon, quand, surtout, le dimanche, parce que c'est là que ça commence, le boycott de Manuel Valls. Ouais. Manuel Valls. Alors une semaine après,
on va l'entendre tout à l'heure.
Fait le choix.
On va y revenir. On va
faire le choix de ne pas venir. Et là où je vous dis quand même, parce que regardez avec les, quelle a été notre attitude. C'était le moment où on aurait pu dénoncer. Je vous dis même une chose. Je pense qu'on aurait dû le faire. Mais ça, c'est un jugement a posteriori de dénoncer ce boycott qui était à l'inverse de l'esprit de la primaire. Est-ce qu'on aurait imaginé Martine Aubry boycottant la convention d'investiture de François Hollande 5 ans auparavant? Évidemment non. Et là, il le fait. Et nous, le choix qu'on fait dans cet esprit de rassemblement, et parce qu'on avait envoyé des signaux positifs en disant on veut se concentrer sur l'avenir, on n'est pas d'accord, c'est sûr, mais les Français, le peuple de gauche a tranché, donc on ne va pas renier le vote qui avait lieu une semaine avant, ça n'aurait pas eu de sens. Et donc Manuel Valls, lui, malgré tout, fait ce choix de ne pas venir. Nous, on a fait le choix de ne pas l'attaquer à ce moment-là, de ne pas le dénoncer, de minimiser cet effet. Écoutez, bon, je pense que ça a été interprété par certains comme un signal de faiblesse de notre part et que ça leur a donné finalement le bon de sortie, l'autorisation pour se lancer dans ce qu'on avait.
Un peu d'autocritique stratégique.
Non, mais moi, ce que je pense, c'est que Benoît Hamon n'était pas que le candidat du PS dans cette élection. Voilà. Il y a la question de qui est candidat de primaire et il y a la question de qui vient voter. Quand vous avez 2 millions de personnes qui viennent voter, ça dépasse très largement le Parti Socialiste. C'est le peuple de gauche, la famille socialiste au sens très 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 large du terme, qui ne se retrouve plus dans le Parti Socialiste. C'est les gens qui se vivent avec une identité socialiste mais qui ne se retrouvent plus dans le Parti Socialiste.
Vous constatez maintenant aujourd'hui, à posteriori, qu'effectivement le PS, parce que finalement il a cette image-là de candidat du PS, mais n'est plus central.
Mais le PS était rejeté, il n'y a pas de doute là-dessus. La meilleure preuve que je vous donne, c'est que depuis 2 ans avant, tous les candidats socialistes vécus comme tels étaient relégués en 5e position dans les sondages. Et ce qui change la donne, c'est la primaire, c'est justement de dépasser tout ça. Peut-être qu'une de nos erreurs a été de trop nous ramener à tout ça. Effectivement, on a...
Il aurait fallu rester frondeur même pendant la...
Pas frondeur, mais ce qui est sûr, c'est que... C'est la question du temps d'une campagne. Cette primaire très tardive avait été construite uniquement pour François Hollande. Pour n'importe quel autre candidat, c'était une hérésie, le calendrier.
Alors coincé d'un côté, vous venez de l'expliquer, et aussi, on va voir, coincé de l'autre, on va réécouter justement l'appel de Jean-Luc Mélenchon à Benoît Hamon. Peu importe la sincérité de cet appel, hein, quand il a quand même eu lieu, c'était 15 jours après, le 16 février 2017, à Strasbourg.
Je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus rencontrer de journalistes sans qu'on me demande aussitôt, avant toute chose, et quel que soit le sujet de la journée, quand est-ce que je vais rencontrer M. Hamon? Est-ce qu'il m'a téléphoné? Tout ça est en train de tourner à une histoire qui est grotesque, dont je suis plus que fatigué. Donc, je vais y mettre de l'ordre. Mon cher Benoît, je suis bien occupé d'ici à la fin de la semaine. Tu ne m'as pas appelé, c'est pas grave. Tu avais d'autres choses à faire. Je propose un rendez-vous la semaine prochaine, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Voilà, j'y mets de l'ordre. C'est moi qui fixe la date. Comme ça, on va arrêter cette comédie.
Mais c'est bizarre, ils font que s'envoyer des SMS. Pourquoi ils s'appellent pas?
Bah, ça serait un peu compliqué, tu vois, ça se verrait. En fait, la vérité, c'est qu'ils se contactent par l'application Telegram. Tu sais, c'est l'application cryptée. Mais bon, le grand public connaît pas ça. Donc là, ils parlent de SMS. Bon, alors c'est là qu'on met Corbière, tu sais, le porte-parole de Mélenchon, qui rencontre Hanotin, le directeur de campagne de Hamon.
Ouais, bah c'est un peu compliqué leur histoire, tout ça pour un rendez-vous en plus. Je t'avoue, la politique, des fois, je comprends pas toutes les subtilités.
Mais si, ça va venir, allez, envoie.
Donc, à partir de là, de ce meeting de Strasbourg,
il y a une séquence nouvelle qui s'ouvre, où nous, on reprend la main. Nous avons écrit une lettre à Benoît Hamon, dans laquelle il y a des points politiques que nous souhaitons en discuter. Cette semaine-là, il y a une émission, notamment, chez Zemmour et Nolo, où je suis à la même table que Mathieu Hanotin, qui est à ce moment-là un homme important dans la campagne de Benoît Hamon. Il en est son directeur de campagne. Et moi, je mets en scène le fait que je sors la lettre, je l'avais amenée, je la pose sur la table devant Mathieu Hanotin, et je dis, voilà, nous, on vous a écrit pour qu'on se rencontre et qu'on discute. Et Mathieu Hanotin repousse de la main la lettre en disant, ça, ça ne nous intéresse pas. Et là, le piège s'est refermé sur eux. C'est-à-dire qu'à la fois, et pour moi, ce moment est illustratif, il est anecdotique, mais symptomatique de, en fait, que la stratégie de Hamon était une stratégie de fausse unité, et en vérité, il prétexte du fait que dans cette lettre, il y a quelques points politiques qui seraient soi-disant des conditions insurmontables pour ne pas discuter avec nous. Parce que fondamentalement, il voulait avoir gratuitement Mélenchon sans jamais discuter du contenu politique, parce qu'il voulait avoir un périmètre large et souple qui lui permettait à la fois d'avoir Mélenchon, mais aussi Valls, mais aussi Cazeneuve, etc. Et tout ça, au-delà après des relations avec nous, s'effondre, parce qu'il est trahi par Valls, il est trahi en fait par ceux qui étaient les hollandistes durs qui ne voulaient pas voir sa campagne réussir, et même sa stratégie d'unité des appareils s'effiloche au fur et à mesure.
Donc Alexis Corbière, je rappelle, c'était le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.
Attends, là j'ai une idée. On met la réponse d'Hanotin juste avec ma question. Je crois que ma question, c'était un truc comme... vous vous souvenez de cette scène?
Ok, je regarde.
Il y a clairement un théâtre d'ombre dans cette affaire. Moi, je veux quand même dire, parce qu'on ne l'a pas évoqué, et je pense que c'est important de reconnaître ces erreurs, on a fait une erreur. Benoît, nous, son équipe, une erreur stratégique majeure. Voilà, qu'on a payé pour le coup très cher, parce que c'est ce qui a ouvert la possibilité à Jean-Luc Mélenchon de mener ce théâtre d'ombre qu'on voyait assez clairement dans l'extrait que vous venez de diffuser. C'est qu'on n'a pas appelé Jean-Luc Mélenchon le dimanche soir. On a appelé Hollande, on a appelé Cazeneuve, on a appelé Jadot. Rendez-vous était pris pour le mardi avec Jadot, et on n'a pas appelé Jean-Luc Mélenchon.
Ça, c'est une erreur.
Et ça, c'était une erreur.
Parce que vous pensez pas qu'en fait il ne voulait pas de cette alliance?
Alors je pense qu'il ne voulait pas de cette alliance, et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé.
Bon, on va pas refaire l'histoire. Peut-être que avec le recul, Benoît Hamon, transgressif à l'intérieur du PS et avec son positionnement original, était un agent du dégagisme dans son parti. Ça lui a fait gagner la primaire. Mais en revanche, dans le cadre de l'élection présidentielle, eh bien, il faisait partie en tant que représentant d'un vieux mouvement politique de ceux qui devaient être dégagés, les boules, les quilles. C'est ça?
Moi, je pense que l'histoire n'était pas écrite. Je pense, honnêtement, je vous dis, je pense que l'histoire n'était pas écrite et qu'on aurait pu, une histoire différente aurait pu s'écrire. Ce qui n'était pas possible, par contre, effectivement, c'était de l'écrire envers et contre tous. On a fait un choix stratégique parce que je pensais, et je pense d'ailleurs toujours, et d'ailleurs le résultat le montre assez bien, c'est que pour que la gauche ait un espoir de victoire, il fallait qu'elle soit rassemblée. Et on l'a vu, sinon Jean-Luc Mélenchon aurait gagné. Quelque part. Sinon, voilà. Donc, il fallait qu'il y ait ce rassemblement pour gagner. Et nous, ce qu'on a estimé, c'était notre responsabilité, c'était d'essayer non pas de garantir finalement un socle socialiste pour reconstruire derrière, pour être à la tête de 15% et de pouvoir continuer la bataille. Notre espoir, c'était de gagner. Et c'est ça l'équation qu'on a essayé de réaliser. Et on n'a pas réussi.
Alors, attends, Carola, on va enchaîner avec la trahison et l'archive de Valls.
La trahison, c'est un nouveau concept avec le dégagisme?
Non, la trahison en politique, c'est pas vraiment nouveau comme concept. En fait, c'est les partisans de Hamon qui appellent ça la grande trahison, parce que Valls, il se dissocie du PS. Finalement, il appelle pas à voter Hamon alors qu'il a fait partie de la primaire, donc c'est pas tellement classe. Et le vainqueur de la primaire, c'était Hamon. Et finalement, tout se déglingue à partir de ce moment-là. Alors, vas-y, lance l'archive Valls, et puis tu la colles après la question à Mathieu Hanotin.
Ok, d'accord, ça marche.
Je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Parce qu'il y a un risque, parce que c'est quand même ça qui me fait agir d'abord. Parce qu'il y a d'abord un risque de victoire du Front National.
Voilà, le risque de victoire du Front National, ça ne vous convainc pas, Mathieu Hanotin?
Moi, je trouve qu'il a bon dos. Voilà, je trouve que ça a été l'explication facile, le risque de victoire du Front National dans cette affaire, sachant que tous les candidats, dans tous les sondages, étaient donnés vainqueurs face à Marine Le Pen au second tour. Quel qu'il soit, qu'il s'appelle Macron, évidemment, Fillon, même Fillon était vainqueur face à Marine Le Pen. Benoît Hamon, quand il a été testé, il était vainqueur face à Marine Le Pen. Mélenchon était vainqueur face à Marine Le Pen. Donc
il y avait, il y avait quand même cette panique. Hein. Il y a eu Trump, il y a eu le Brexit, l'incertitude généralisée.
Oui, mais c'est ce que je dis. C'est, certains en ont joué, en tout cas. Et en tout cas, c'était, ça a été un, comment dire, une justification du bon pour trahir assez évidente et assez facile, un peu trop, je trouve.
Vous l'aviez vu venir? De ce que vous appelez cette trahison?
Ben, on savait que c'était une possibilité. Enfin, quand on gagne, honnêtement, c'était une possibilité. On s'est donné, on a essayé de tout faire pour que ça n'arrive pas. Alors, il faut s'interroger sur pourquoi. Moi, je pense que oui, il y a toute une partie qui représentait la gauche autour de Hollande, qui était au pouvoir, qui n'a absolument pas digéré le fait que les Français aient choisi un autre candidat.
Stop. Maintenant, on enchaîne avec l'archive 4, le soir de la défaite de Hamon au premier tour.
Ça roule.
Merci. S'il vous plaît. Mes chers concitoyens, j'ai échoué à déjouer... S'il vous plaît. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. C'est la seule attitude que me dicte mon éthique politique. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. L'élimination de la gauche par l'extrême droite pour la seconde fois en 15 ans n'est pas seulement une lourde défaite électorale. Elle signe, pour notre pays aussi, une défaite morale, en particulier pour la gauche.
Si je résume, le PS explose complètement.
Bah c'est ça qui va se passer. Mélenchon d'un côté, Macron de l'autre. Ils prennent à eux de toute la place. Au milieu, Valls, Hamon, il n'y a plus grand monde. C'est le désert des Tartares.
Bah du coup, je monte les derniers sons et puis après, il y a ta conclusion.
Voilà, puis ensuite, on va enchaîner sur l'alliance Marine Le Pen-Dupont-Aignan.
Dupont-Aignan, on dit pas Dupont-Aignan.
Si t'as raison, c'est Dupont-Aignan parce qu'il y a un tiret.
Ouais.
Bon allez, un café maintenant.
Monsieur le président,
le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34 pour le FN. Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En mars, c'est nous.